VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 17h à Bamako, 19h à Bujumbura. On commence par l'actualité africaine. Au Mali, le Gatia, un groupe armé favorable à Bamako, a pris hier le contrôle de Menaka, une localité du nord du pays, jusqu'alors partiellement contrôlée par la rébellion du MNLA. Les rebelles Touareg ont alors dénoncé une rupture manifeste du cessez-le-feu par le gouvernement. Pour faire un point sur la situation, Idriss Fall a joint Alousseini Agali, directeur de la radio Adar Koïma.
Hier, à partir de 11h30, on a entendu l'échange de tir. Donc les gens commencent à avoir l'information qu'il y a Gatia et qu'il vient rentrer à Menaka. Donc à midi, des gens ont la confirmation que c'est Gatia. Donc 20 minutes après, les Gatia a repris la ville de Menaka. Les MNLA a quitté Menaka et aujourd'hui, les Gatia quittent Menaka.
Il y a eu des morts dans les affrontements?
Bon, les morts, je ne peux pas les confirmer. Mais je sais que quand quand on attaque, il ne va pas manquer de morts et de blessés. Mais je ne peux pas vous confirmer exactement le nombre de morts et le nombre de blessés.
C'était Alousseini Agali, directeur de Radio Adar Koïma. Au Nigeria, les corps de centaines de personnes ont été retrouvés dans la ville de Damasak, dans le nord-est du pays, apparemment victimes des exactions du groupe islamiste Boko Haram, qui a perpétré de nouvelles attaques pendant le week-end. Nouveau signe de son pouvoir de nuisance. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui doit être investi le 29 mai, a promis hier de traiter Boko Haram comme des terroristes parce qu'ils ne sont qu'un faux groupe religieux, a-t-il dit. Des soldats venus du Tchad et du Niger avaient reconquis le 9 mars dernier la ville de Damasak des mains de Boko Haram dans le cadre d'une offensive régionale contre les militants islamistes qui avaient pris la localité en novembre dernier. Le défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Bonimpa a été relâché par les services de renseignement cet après-midi. Cette figure de la société civile burundaise, opposée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, avait été arrêtée hier. Maître Fabien Segatois, un des avocats de Pierre Claver Bonimpa, revient sur les circonstances de son interpellation.
Monsieur Pierre Claver a été arrêté hier dans la maison de la presse lorsque les policiers allaient fermer cette maison. Il y avait quatre radios qui émettaient en synergie. Il était parti comme les autres pour voir la situation et éventuellement pour faire la médiation parce qu'il est habitué à cela. Et bien sûr, les policiers n'ont pas été contents de sa présence parce qu'on lui reprochait d'être à la base de ces manifestations qu'ils appellent évidemment insurrection. Et on l'a arrêté, on l'a sans mandat, bien sûr, sans mandat d'arrêt, et on l'a conduit dans les bureaux de la documentation qu'on appelait dans le temps les bureaux de sûreté. Et il a passé la nuit. Aujourd'hui, à 15h, il a été libéré.
Maître Fabien Segatois, un avocat de Pierre Claver Bonimpa. De son côté, le président Pierre Nkurunziza a fait savoir qu'il ne reculera pas devant les opposants à travers les déclarations de son conseiller en communication à l'AFP. Nous devons aller aux élections, c'est le peuple qui doit trancher, a-t-il ajouté, accusant certains manifestants d'emprunter, je le cite, une voie de la violence qui rappelle les années sombres de notre histoire, a-t-il dit. Au moins 5 personnes ont été tuées depuis dimanche dans les violences. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dépêché son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, au Burundi, à la suite de ces troubles pré-électoraux. Et la société civile s'inquiète des dérives du pouvoir. Pour une réaction, j'ai joint Christophe Seboudandi, directeur exécutif de Gradis, groupe de recherche et appui au développement des initiatives démocratiques. Il évoque la situation d'un autre militant, Pacifique Nini Nazwe, président du Forum pour la conscience et le développement.
Un mandat d'arrêt a été émis contre lui, mais ce qui est intriguant, c'est que certaines informations disent que son mandat d'arrêt n'émane pas de services normalement mandatés de la justice non seulement les militants des droits de l'homme, mais je pense que beaucoup de Burundais, surtout ceux qui sont à Bujumbura, craignent pour leur sécurité. Il y a des manifestants qui manifestaient pacifiquement qui ont été tués. Et nous savons aussi que les gens qui ont été tués chez eux, dans leur domicile, donc la peur s'installe dans la ville. Et je pense que beaucoup de gens ont peur, surtout qu'il y a en fait la constitution qui a été mise sur le boisseau, et donc la loi n'existe presque plus dans ce pays. Donc tout peut arriver à n'importe qui, c'est la loi de l'arbitraire. Il y a des éléments effectivement incontrôlés au sein de la police, mais aussi on parle de personnes qui auraient été introduites au sein de la police, qui seraient armées et porteraient des armes, et apparemment ces informations ont été confirmées.
Au plan politique, qu'est-ce que vous prévoyez encore ?
Nous, ce que nous prévoyons, c'est que la loi soit réinstaurée dans ce pays, que la constitution soit respectée. Je pense que les manifestations vont continuer. Et ce qui est grave, c'est que justement, les personnes qui sont en train de réprimer le mouvement sont en train d'utiliser cette situation, prétendant que les quartiers qui sont en train de manifester sont à prédominance politique. Mais la plupart des leaders politiques, pour tout et tout, se sont exprimés pour dire que le rôle du troisième mandat n'est pas porté par une seule ethnie, mais c'est porté par beaucoup de Burundais. Et donc, c'est une affaire de Burundais qui n'a rien à voir avec l'ethnie.
Christophe Seboudandi, directeur exécutif de GRADIS, groupe de recherche et appui au développement des initiatives démocratiques basées à Bujumbura.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen John Dramani Mahamat sont arrivés à Lomé au Togo pour faire le point sur l'évolution du processus électoral selon un communiqué de la présidence togolaise. Les deux présidents doivent notamment rencontrer les candidats à la présidentielle de samedi dont les résultats partiels officiels portant sur 26% des votants donnent le président sortant Fourni Assingbé largement en tête avec 69% des voix contre 18% pour son principal rival Jean-Pierre Fabre. Selon de nouveaux résultats partiels officiels publiés aujourd'hui. En Centrafrique, le gouvernement menace aujourd'hui de radier les policiers de Bangui en grève depuis le 11 avril pour un meilleur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Un mouvement très suivi qui a forcé les autorités centrafricaines, selon l'AFP, à faire appel aux policiers municipaux, à la gendarmerie et à la police de la force onusienne pour remplacer les grévistes. Quatre membres d'une cellule terroriste qui voulait brûler vive une personne qu'ils accusent d'apostasie ont été arrêtés mardi dans la ville de Laayoune, Sahara occidentale. Selon un communiqué du ministère marocain de l'Intérieur, ils avaient l'intention de perpétrer des crimes terroristes dangereux au Maroc et avaient émis une fatwa autorisant de brûler vif un de leurs connaissances qu'ils accusent d'apostasie. D'après ce communiqué ministériel relayé par l'agence Amazon, l'enquête menée par le Bureau central des investigations judiciaires a révélé l'adhésion totale de la cellule démantelée avec l'agenda du groupe État islamique. Des centaines de policiers et de militaires lourdement armés sillonnaient ce matin les rues de Baltimore dans l'est des États-Unis, promettant de ramener l'ordre dans la ville qui a été le théâtre d'émeutes la veille après les funérailles d'un jeune noir décédé alors qu'il était détenu par la police. « Nous n'allons pas tolérer cette violence », a déclaré le gouverneur de l'État du Maryland, Larry Hogan, un point de contrôle installé par la police, entouré d'hommes lourdement armés et en tenue anti-émeute. « Ce qui s'est passé la nuit dernière à Baltimore ne va pas se reproduire », a-t-il ajouté fermement. Au Népal, le bilan du séisme a dépassé le seuil des 5000 morts et pourrait doubler 10 000 personnes ont également été blessées. 8 millions de personnes, soit plus du quart de la population, ont été touchées par cette catastrophe. Le Premier ministre népalais a décrété 3 jours de deuil national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour Le Monde aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info.